le revenu universel. J'ai l'impression d'en entendre parler partout, pas vous?
Est-ce que c'est possible ou pas? Peut-être qu'on pourra en parler.
Parlons-en un instant.
On entend souvent dire, notre civilisation, notre société, elle va droit dans le mur.
Et c'est le moment de subir des électrochocs.
Qu'est-ce qu'on construit? Si ça s'effondre, il faut construire et aller voir ce qui peut émerger, les jeunes pousses de ce qui émerge suite à l'effondrement de cet arbre géant.
Et bienvenue dans les comptoirs du monde. Vous êtes en compagnie de Nicolas, Alexandre, Gus, Hugo et moi pour une petite heure autour d'un sujet qui nous est cher, d'un sujet qui touche en même temps à un désordre global et à des solutions locales. Ce mois-ci, on va se pencher sur la forêt, sur notre forêt. On va parler de sylviculture, on va parler d'exploitation, on va parler d'exploitation industrielle, mais aussi artisanale, et on va le faire avec nos trois invités. Nous avons autour de la table Alexandre Lézé, chargé de mission charte forestière à la communauté de communes des Pyrénées-Audoises.
Bonjour.
Nous avons Hugo Salgado, membre fondateur du fonds de dotation Forêt Préservée.
Bonjour à tous et à toutes.
Et salut aussi Augustin, tu es garde forestier pour un groupement forestier privé.
Bonjour à tous.
Voilà, tu pourras nous parler de ton expérience personnelle sur le terrain. Et on va d'abord commencer par introduire un petit peu le sujet. Nicolas, tu t'es un petit peu penché sur ce qu'est aujourd'hui la forêt, comment on l'exploite, comment aujourd'hui on produit du bois à notre échelle et à l'échelle du pays.
Ouais, exact. Alors aujourd'hui, je commence par une petite introduction personnelle, parce que la forêt, c'est celle de tous, mais c'est aussi des expériences personnelles. Alors moi, quand j'étais petit, j'allais me balader en forêt avec mes parents. Je n'aimais pas toujours ça. Il y a des jours où je trouvais que c'était vraiment la corvée, hein, il faut le dire. Surtout à l'automne, quand on allait chercher des champignons et qu'on n'en trouvait pas un. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ces marches très longues. Mais on n'avait pas toujours les bons coins, il faut dire. Alors il me reste quand même de cette période des bruits, des odeurs, des sensations, des souvenirs matériels, hein, comme ces morceaux de bois qu'on ramenait à la maison, qui servaient à faire des bricolages avec mon père, qui travaillait le bois, et puis on fabriquait des épées, etc. On se contentait parfois tout simplement de jouer avec des bâtons qu'on avait récoltés. Je me souviens aussi d'une sortie avec la classe en CM1 ou en CM2 peut-être, à la recherche de traces d'animaux. On avait réalisé des moulages d'empreintes de renards, de sangliers, on les avait ensuite ramenés à la maison. On les avait précieusement conservés, puis forcément un peu oubliés. Jusqu'à ce qu'on doive faire cette émission sur la forêt. Alors pourquoi je m'en rappelle autant de ces moments en forêt? J'ai l'impression que c'est parce que la forêt, c'est un milieu toujours étonnant et déroutant. Pas dompté totalement, donc un peu magique ou mystérieux. Parfois effrayant aussi quand la nuit tombe ou qu'on s'y perd. Hein, comme cette autre fois, 20 années plus tard, où je me suis perdu sur l'île bien nommée de Bear Island, l'île de l'ours, au Canada. J'étais parti seul dans la forêt, comme ça, au hasard d'une balade, la pluie s'était mise à tomber, les fougères devenaient brillantes. Pas de carte, pas de kawaii, une banane d'origine dominicaine pour seul réconfort, et pas un humain autour pendant une bonne petite heure. Alors j'ai flippé, parce que c'est quand même Bear Island, hein. J'ai marché, j'ai flippé à nouveau quand j'ai vu le soleil descendre, et j'ai cherché longtemps, puis j'ai trouvé, j'ai suivi un ruisseau qui coulait, et puis je pensais que ça m'amènerait peut-être au bord de la mer, peut-être dans une baie, et bingo, je suis arrivé sur un lac, une cabane, un gaillard canadien en train de couper du bois, c'est cliché, mais vraiment, ça s'invente pas, ça s'est vraiment passé, il avait une chemise à carreaux, voilà, j'étais sauvé. Et la forêt, je l'ai vue sous d'autres aspects aussi, plus exubérantes, plus diverses. Par exemple, à Vanuatu, un archipel oublié de tous, près de la Nouvelle-Calédonie, sur l'île d'Ambrim. Alors là, c'est plutôt un autre paysage, chauve-souris géante, noix de coco à profusion, fruits à pain, généreux, pamplemousse magnifique. Jean Badic, le gendre du chef du village, nous avait invités avec un ami à venir chez lui pour son mariage. On était les premiers blancs à rester sur place depuis un certain temps. Les missionnaires étaient passés par là bien avant nous, malheureusement, avec l'intolérance, la volonté de dominer les esprits comme les corps. Hein, les habitants d'Ambrim avaient été sortis de la forêt nourricière, qui est farouche, hein, et on ne peut pas dire le contraire, mais aussi protectrice face aux cyclones qui ravagent cette île. Ils avaient été installés dans des villages nouveaux, au sein de clairières défrichées, non loin de la mer. Ils vivaient au rythme du carillon de l'église, hein, construction étrange, là-bas, en bois de charpente, dans un paysage de maisons aux toits de feuilles. Voilà, toujours la forêt qui protège et fournit les moyens de l'accueil. Après le voyage, Jean Badic nous a dit plus tard, sans trop y croire, j'espère qu'il avait honte de la vie de leurs ancêtres, de leur nudité, de leurs croyances. En vérité, c'est nous qui avions honte à ce moment-là, parce que nous, on se voyait très mal, en fait, survivre dans ce milieu-là. La forêt, milieu hostile aussi, quand on ne le connaît pas. Nous, on peut tous acheter une bouteille d'eau, moyennant un dollar ou un euro, mais comment est-ce qu'on trouve de l'eau potable dans une liane? Et comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que c'est la bonne liane? Voilà, donc tout ça, ça m'évoque la forêt. Voilà, c'est mon expérience à moi. Mais nul besoin d'aller si loin pour constater qu'il existe de façon naturelle pas une forêt semblable à une autre. C'est un milieu en soi, il n'y a pas une forêt, mais des forêts. La forêt peut désigner ce lieu sauvage, biscornu, bruyant, vivant et plein de surprises pour ses habitants et ses visiteurs. Qu'on soit promeneur, chasseur, cueilleur, naturaliste. Elle peut aussi être cet endroit balisé, régulièrement planté d'une même espèce, monotone, silencieux, sage, l'impression d'une culture de futurs poteaux téléphoniques. En France, un tiers du territoire de la métropole serait recouvert de forêts appartenant ou se situant entre ces deux catégories extrêmes. Donc, la forêt naturelle, c'est-à-dire sanctuarisée, forêt que l'on laisse remplir leur rôle, plutôt riche en faune, en flore. Et puis, à l'autre côté du spectre, la forêt d'exploitation. Souvent une seule espèce, des arbres qui ont le même âge et poussent vite, des arbres qui sont abattus jeunes, un peu comme un champ, mais de bois. Cependant, il n'y a pas de distinction acceptée officiellement entre culture d'arbres et forêt naturelle. La question des forêts est confiée en France au ministère de l'Agriculture et à l'échelle de l'ONU à la FAO. Certains experts comme le naturaliste Francis Allais, dont j'aurai j'espère l'occasion de reparler un peu plus tard, appellent à la création d'une structure ministérielle ad hoc qui s'occupe exclusivement de la forêt, avec une structure similaire à l'échelon mondial, et à laisser le ministère de l'Agriculture gérer les plantations d'arbres. Donc que lui n'appelle pas des forêts. Au niveau mondial, comment va la forêt? C'est plutôt un tableau assez sombre. Le bilan est le suivant. 4 terrains de football disparaissent chaque minute dans le monde. Le Brésil et la Bolivie figurent ces dernières années dans le triste palmarès des pays les plus destructeurs de forêts. On pourrait faire la liste de chaque espèce végétale irrémédiablement perdue, de chaque insecte, champignon, oiseau, batracien, singe, animal... ou petits ou grands, hein, victimes de la déforestation, on pourrait parler des Indiens menacés, tués, déportés. Cette liste, elle pourrait être mise en regard avec ce que permet l'atomisation de la forêt dans la conquête de nouveaux espaces. Essentiellement agriculture OGM ou d'export, élevage extensif, coupe de bois exotique, projet minier. Voilà, le modèle agricole dont la FNSEA, entre autres, est si fière et responsable de l'achat annuel dans notre pays de plus de 2 millions de tonnes de soja brésilien qui nourrit des volailles, des porcs, des poissons d'élevage et pire, des vaches. Et puis sur notre conscience à nous, en tant qu'Européens, il plane aussi la responsabilité de la destruction d'un tiers de la forêt tropicale via les achats de soja, d'huile de palme, de cacao, viande de bœuf, cuir, caoutchouc, bois, pâte à papier, etc. Et en Europe, justement, qu'est-ce qui se passe? La couverture forestière, en Europe, continue de progresser continuellement et elle couvre 40% de la superficie des 27 pays qui la composent. Mais ces données mélangent plantations d'arbres et forêts naturelles aux écosystèmes complexes. Encore une fois, on a bien du mal à trouver la part de la forêt là-dedans. L'Europe, en tout cas, a perdu toutes ses vastes forêts primaires, remplacées par des forêts secondaires gérées par l'homme, à l'exception, justement, d'une forêt qui se situe entre la Pologne et le Bélarus. De notre côté, en France, la forêt regagne du terrain. Forcément, si on délocalise toutes les industries et qu'on fait produire les aliments des poulets ailleurs, ça semble assez logique. Aujourd'hui, en France, il y a 15 millions d'hectares de forêt, il y en avait 8 millions en 1810. Les forêts ont donc plus que doublé en superficie depuis 200 ans et grandissent de 90 000 hectares par an, soit environ 130 000 terrains de football. Je ne sais pas pourquoi ils aiment bien... les terrains de football dans les chiffres que je trouve. Bon voilà, ça parle sûrement à beaucoup de gens. Malgré tout, il y a une réelle perte de biodiversité qui est observée partout sur le territoire, hein, malgré cette place plus grande des forêts. Alors on en revient à cette question, quelles forêts nous entourent? On n'entend pas, mais j'ai posé la question au pluriel. Les forêts couvrent près de 30%, là on revient sur le local, de la superficie de l'Aude. Plus de 200 000 hectares et sont omniprésentes dans le paysage. Alors, on va tracer assez vite les contours. Le territoire de l'Aude est donc caractérisé par l'existence d'espaces de nature différente reflétant les fortes variations climatiques et géologiques. Alors, influence montagnarde, on a les forêts de montagne du Pays de Sceaux, de la Montagne Noire et du Haut Cabardès, où on trouve plutôt du hêtre, du sapin pectiné, du châtaignier. Après, on a les territoires sous influence méditerranéenne, avec des forêts qui s'étendent du Minervois et des Corbières orientales jusqu'au littoral. Et là, on a prédominance du chêne vert et du pin d'Alep. Enfin, une influence plus océanique à l'ouest et au centre de l'Aude, avec les forêts du Razès, des Corbières occidentales, où on rencontre les chênes rouvres, pédonculés, pubescents, et puis des pins et des cèdres. Voilà, sur les 200 000 hectares de forêts qui couvrent l'Aude, plus des deux tiers sont des propriétés privées. Le reste appartient à l'État, forêt domaniale gérée par l'Office national des forêts, et aux collectivités territoriales, communes, communautés de communes, départements. Voilà, pour information, le département est propriétaire de 2000 hectares de forêts, ce qui représente 1% de la surface boisée de l'Aude. Donc, trois grands enjeux qui sont au cœur de la gestion publique à cette échelle. Alors, protéger la faune et la flore et leur diversité, accueillir, orienter, éduquer les publics, et puis produire pour sa commercialisation du bois issu des forêts départementales. Ça, c'est les axes que j'ai trouvés sur le site du département de l'Aude. Alors, la gestion des forêts publiques, qu'elles soient possession du département ou d'autres collectivités, requiert un entretien et parfois une valorisation touristique, une attention à la protection de l'environnement, et puis aussi une gestion des activités donc sylvicoles, plantation de bois, pastorales, paysagères, et aussi la lutte contre les incendies qui occupent bien sûr les pompiers tous les étés, et puis qui fait l'objet de travaux en amont. Donc ce travail, il va être accompli par différents agents, dont les agents de l'Office National des Forêts, ou ONF, dont on reparlera sans doute un petit peu plus tard. Ces agents donc qui font partie de cette structure qui a été créée en 1966 par Edgar Pisani, ancien préfet et ministre de l'Agriculture, et qui avait une vision clairement, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, donc je pense que c'est pas trop sujet à discussion puisque les notices sont revues, clairement productiviste, en tout cas dans son objet premier. Voilà, il s'agissait de mettre sur pied une véritable sylviculture industrielle, dont peut-être, Hugo, tu pourrais nous définir les contours, puisque toi, tu es sur ce dossier-là, et que moi, mes connaissances, elles s'arrêtent vraiment là. Voilà.
Oui, alors on parle de plus en plus d'industrialisation de la forêt, c'est un processus qui n'est pas nouveau, hein. Et ça va aussi avec les premières plantations pour produire vraiment de manière intensive sur peu de surface. Et moi, si je parle de cette industrialisation, c'est qu'en tant qu'habitant d'un petit village où il n'y a que de la forêt, entre guillemets, ça fait 10 ans que j'y suis à peu près, et j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'exploitations. Et disons, moi j'ai l'impression que depuis 2016, il y a eu vraiment une nouvelle arrivée de technologies et de machinisme qui ne se voyait pas avant. Je pense vraiment à l'introduction de ce qu'on appelle les abatteuses, en fait, qui sont issues d'un modèle de gestion des forêts comme en Suède ou en Finlande, par exemple, où tout est homogène et en fait tout plat, et en fait on fait du volume, et on avance, et ces forêts sont pas très, très riches en biodiversité. Et du coup, on était un peu en retrait jusqu'à il y a pas longtemps en Haute-Vallée sur cette industrialisation de la forêt. Parce qu'on a souvent des forêts qui ne sont pas toujours accessibles au machinisme, surtout en Pays de Sceaux. Et bon, alors cette industrialisation, il se voit par une augmentation de trafic de grumiers, pas mal qui passent des frontières, on va dire. Et le souci, c'est aussi que ça vient en fait se reverdir sous prétexte d'énergie renouvelable, et donc la thématique bois-énergie. Et du bois industrie sous couvert d'être vertueux et capteur de CO2 participe à une destruction des milieux forestiers, alors qu'on est quand même dans une grosse croisée des chemins où il y a des scientifiques de l'INRA entre autres qui disent qu'il faut vraiment revoir le modèle de gestion, et qu'on peut difficilement imaginer continuer à faire des coupes rases. En fait, on a des dépérissements massifs dans l'est de la France, et ça, c'était un scénario qu'on prévoyait d'ici 20 ans, et c'est déjà le cas. Et moi, personnellement, bon, je suis parisien, hein, il y a un peu de forêt à Paris, hein. Et du coup, je suis remonté à Paris l'année dernière, et je suis passé par le massif central, et j'ai commencé à voir quelques arbres crever par-ci, par-là. de plus en plus. Et arrivé en Bourgogne, c'était vraiment incroyable de voir tous ces énormes chênes en prairie là, qui font un peu les paysages du Charolais, morts sur pied, des plantations de conifères, toutes crevées. Et jusqu'au bassin parisien, évidemment. Bon, là, c'est plus la Beauce et on voit que tout crève. Donc, en fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Et c'est le cas de le dire. Et alors, voilà, il faut vraiment se réapproprier les enjeux d'atténuation, d'adaptation, de biodiversité et de développement local. Et la forêt, c'est pas un univers facile à se réapproprier parce qu'il y a plein de règles, il y a plein d'instruments juridiques, de propriété forestière, de mode de propriété. Et puis la forêt, c'est pas non plus tous les jours qu'on y va. Et c'est un peu le parent pauvre de la transition écologique. Bon, j'emploie ce terme pour dire vraiment la traversée qu'on a à faire pour passer d'un modèle à l'autre. Effectivement, moi, je suis complètement sur cette vision productiviste d'après-guerre qui en fait, s'accélère. Hein. Et sous couvert de transition écologique et énergétique aussi. Donc, qu'est-ce qu'on y met derrière, quoi.
Ouais, merci Hugo là pour vraiment introduire cette thématique-là. Je me demandais, Augustin, toi, est-ce que tu as vu dans ton travail justement arriver ce machinisme, ce productivisme? Comment est-ce que les gestionnaires privés de forêts font avec ça? Est-ce que c'est des outils qui aujourd'hui sont généralisés, ou est-ce qu'il y a toujours une possibilité quand même d'avoir une, comme le dit Hugo, une gestion qui ne va pas être dans la prédation, qui ne va pas scier la branche sur laquelle elle est assise?
En fait, donc aujourd'hui, on plante principalement chez nous du cèdre et du douglas. Du douglas parce qu'il pousse très vite et qu'il est très bon pour la construction. Et en général, ce sont des parcelles qui seront coupées toutes à la machine quand les arbres sont bien calibrés, entre 50 cm de diamètre à 1,30 m de hauteur et 55-60. Et ces machines-là, surtout chez les privés, qui sont en général gérées par la coopérative Co-Silva, donc la coopérative sylvicole de l'Aude, chez les privés, on veut faire de l'argent. Le but principal, c'est que ça nous rapporte un petit peu. Et si possible, même beaucoup. C'est pour ça que le Douglas, il a un bon rendement, donc il est principalement planté ici, chez nous. Il pousse bien, donc voilà. C'est un arbre américain au départ, hein, donc il n'y a rien à faire chez nous. Mais bon, c'est une question de point de vue, ça aussi. Et les machines, oui, sont très très souvent employées. Déjà parce que c'est de plus en plus dur de trouver des bûcherons. C'est un métier qui n'attire pas du tout, c'est dangereux, c'est dur. Faut travailler souvent seul et c'est très compliqué. Donc oui, de plus en plus de machines et de plus en plus grosses.
Alors on va faire une petite pause musicale avant d'introduire un peu des possibilités de solutions locales justement à cette intensification, cette industrialisation des arbres sur place. Et donc on va d'abord s'écouter Deluxe sur leur album Boys and Girls sur le morceau Easy.
Hey there, it's been a long time. Ready up, ready up.
Et on est de retour. On est de retour au comptoir, dans le comptoir du monde. On n'est malheureusement pas au Café de Fa ce mois-ci, car le Café de Fa est toujours fermé, voilà, à cause des mesures sanitaires. Et puis aussi parce que les anciens propriétaires ont passé la main et ont créé une société coopérative d'intérêt collectif. Donc tout ça est en train de se réorganiser et ça rouvrira quand on pourra rouvrir avec plein de belles initiatives, des belles dynamiques et voilà, un nouveau souffle pour ce lieu... d'intérêt collectif, voilà, qui nous sert à tous dans la vallée. Et on est de retour donc dans les studios de Radio Balade, dans lesquels on va parler de forêts. On va parler de forêts préservées ou de forêts massacrées. Et on va mettre très clairement les pieds dans le plat parce qu'on a déjà un petit peu introduit le sujet de la sylviculture industrielle. Et là, on va très clairement dire qu'on commence à la voir. On la voit chez nous et on commence à voir des grands pans de forêt qui disparaissent, et notamment ces derniers mois, cette dernière année, au col de Fest, ce qui a pu choquer pas mal de citoyens qui se sont montés en collectif pour répondre à cette problématique. On a une partie de la forêt qui a tout simplement disparu du paysage. C'est ce qu'on appelle les coupes rases qui se font avec les grandes machines d'abattage dont on parlait juste avant. Cette problématique, aujourd'hui, elle commence à être visible, mais c'est un mouvement de fond. Hugo, tu en parlais de cette industrialisation de la forêt et du fait aussi que finalement, on appauvrisse l'écosystème de manière générale. C'est ça ce que font ces coupes rases. Finalement, c'est entraver, enfin piocher dans le capital de la forêt.
Alors en fait, une des grandes richesses qu'on ignore sur les forêts, c'est les sols en fait. Et donc, on parle de l'humus, et l'humus, donc, c'est un peu la partie émergée du sol qui est plus profond. Et en fait, alors là, c'est en train de vraiment sortir des labos et tout ça, mais on parle d'Internet de la forêt. Ça veut dire que dans les sols, il y a toute une vie qu'on redécouvre, en fait. Et une partie se base sur des schémas de coopération, les mycorhizes, des choses comme ça. Et alors, effectivement, si on fait des coupes rases, donc on fait table rase, et imaginez qu'on enlève tout ce qui est forêt. Bon, dans le meilleur des cas, on va laisser quelques jeunes arbres longs et hauts qui ne vont pas survivre plus de 5 ans en cas de tempête. Et donc, ces sols sont à nu. Donc, ils sont exposés... aux exagérations du climat, en tout cas les épisodes de plus en plus fréquents, donc de canicules, de sécheresses, de grosses pluies, donc les sols qui mettent des centaines d'années à se former, dégringolent de haut en bas, donc emportés par les pluies. Et donc au niveau des sols, et c'est Francis Allais qui le dit aussi, hein, dans les zones tropicales, si on perd les sols, il n'y a plus de forêt qui peut revenir. Et en fait, c'est pas grave de faire des coupes d'arbres, mais qu'on ait plus de sol, ça veut dire qu'on aura plus de forêt comme avant, dans un contexte où il y a tout qui change, quoi. Sans parler de la biodiversité forestière, purement forestière, qui va disparaître. En fait, ça dépend aussi de la taille de la coupe rase, hein. S'il y a une coupe rase et que à côté ça reste de la forêt, il y a des processus et la forêt est résiliente, elle va se réinstaller petit à petit, mais il faut respecter son cycle en fait.
Et justement, au niveau des tailles, je crois qu'il y avait une sorte de revendication qui était portée à ce niveau-là, pour limiter la taille des coupes rases. Toi, Gus, tu me disais tout à l'heure, pendant la partie là, musicale, qu'il y avait sur l'endroit où tu travailles, où tu as travaillé, des coupes rases qui étaient effectuées. Comment ça se passe? Dans quelles conditions, qu'on comprenne bien comment ça se passe dans une forêt qui est gérée avec production de bois? Comment ça se passe?
Alors, pour une forêt, c'est simple, on prend un endroit complètement vide de forêt, on commence à planter des arbres. Les arbres sont espacés entre 2 et 3 mètres, donc on en met à peu près 1100 à 1300 à l'hectare. Et après, au bout de 20 à 25 ans, quand ils commencent à se gêner, on commence à faire une première coupe, qu'on appelle coupe d'éclaircie, où on enlève entre 20 et 30% des arbres. Et ensuite, tous les 15 à 20 ans, on revient pour faire la même chose, jusqu'à 60 ou 80 ans, selon les espèces, où on fait coupe rase.
Ok, et donc là, le terrain, à ce moment-là, est mis à nu.
Le terrain est mis à nu, mais ce n'est pas vraiment un écosystème forestier au bout de 80 ans. Il faut 3, 4, voire 5 générations d'arbres pour que ça devienne un écosystème entièrement forestier.
Donc c'est un champ en fait, qu'on a juste récolté pratiquement, on pourrait dire ça.
Oui, la sylviculture aujourd'hui s'apparente beaucoup à l'agriculture.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter d'entamer ce capital, pour éviter d'entamer cette fertilité du sol. Aujourd'hui, peut-être que tu peux nous parler, Hugo, de ce fonds de dotation forêt préservée que tu as cofondé, nous expliquer comment est-ce qu'on peut, en tant que citoyen, en tant qu'investisseur, mettre de côté, réussir à préserver la forêt de ses coupes rases et finalement de sa destruction.
Oui, bien sûr que je peux vous en parler. Je voulais juste revenir sur quelque chose que j'avais oublié de dire et qui me paraît important, c'est que les sols aussi sont des grands capteurs de CO2 et les forêts en général. Donc c'est pour ça que je faisais l'association avec la branche qu'on est en train de scier. Alors, avec un copain, c'est un copain à moi en fait qui travaille dans les Pyrénées centrales depuis de nombreuses années sur l'étude des vieilles forêts. Alors les vieilles forêts, c'est en fait, il faut imaginer que la forêt elle passe par 4 cycles qui sont différentes durées sur le temps et jusqu'à atteindre une certaine forme de maturité. Ça veut dire que on a les arbres les plus gros, on a la plus grosse biodiversité qui se retrouve à partir de à peu près 400 ans sur les forêts montagnardes d'Europe. Et on a des milieux qui s'appellent ces vieilles forêts qui n'ont pas été touchées par l'homme depuis au moins un siècle. Et avec une présence d'arbres, des tailles d'arbres, une diversité d'arbres, de micro-habitats qui sont vraiment hyper particuliers et qui sont très rares, même dans les Pyrénées. Et on a pensé avec Philippe Falbé, donc lui qui est spécialisé dans les vieilles forêts, qu'on pouvait réfléchir à suivre en fait un mouvement qui s'est entamé sur le Vercors par l'ASPAS et qui consiste en fait à racheter des forêts qui sont à la vente, en fait des parcelles, parce qu'on rachète des parcelles, les forêts elles restent des forêts, et pour pouvoir utiliser le titre de la propriété privée pour leur foutre la paix en fait, et pas pour s'en approprier, mais pour qu'en fait on s'assure que sur la durée on puisse présenter l'argument de la propriété privée pour qu'elle soit pas coupée. Et donc c'est pour ça qu'on a monté un fonds de dotation. On est cinq membres fondateurs et l'ASPAS a fait ça aussi sur le Vercors. Ils ont acheté 500 hectares d'un seul tenant. Alors nous on a commencé dans les Pyrénées sur l'Ariège, sur un massif de 40 hectares de forêt ariégeoise qu'on a acheté sur, je crois que c'est une quinzaine de propriétaires. Alors il faut imaginer les cadastres sur les parcelles de propriété de forêt, c'est vraiment complexe, c'est plein de petites bandes très serrées, ça ressemble vraiment pas à des formes naturelles, et c'est compliqué de réunir tout le monde. Mais quand on a réussi à acheter 40 hectares, on est sûr que s'il y a un projet de faire une desserte, c'est-à-dire une voirie, pour sortir des bois qui sont sur d'autres parcelles de forêt à côté, on va être obligé de nous consulter et on va avoir le droit de donner notre avis favorable ou pas pour qu'on fasse ces infrastructures. Et nous, en fait, on sait qu'on dira non. Et en fait, ça veut dire qu'on sauvegarde 120 hectares d'emblée sur une petite vallée. Et on fait de la prospection sur des forêts qui sont à vendre et qui ressemblent à des vieilles forêts ou qui s'en approchent. Donc on fait des inventaires sur la structure écologique. On essaie de rencontrer les propriétaires et on fait de la récolte de fonds aussi pour pouvoir avoir les moyens de nos ambitions, parce qu'on passe par de l'argent. Et bon, c'est un peu des totems qu'on veut placer sur la chaîne pyrénéenne pour installer des nouveaux imaginaires possibles. On est conscient qu'on ne va pas arrêter l'industrialisation de la forêt, mais en tout cas, on veut donner une autre image et on veut lui donner cette chance de rentrer dans des cycles d'évolution libre.
Alors, ce qu'on a vu aussi en parallèle de cette structure que vous avez montée, c'est un mouvement citoyen dans la Haute-Vallée de l'Aude qui s'est un peu structuré. Donc, pour l'instant, c'est un collectif informel qui s'appelle SOS Forêt, qui s'est créé donc en réaction à cette coupe rase au col de Fest et qui a pour but de mobiliser, de fédérer en fait un réservoir de citoyens et de citoyennes prêts à aller s'engager physiquement, à aller déposer des pétitions en préfecture à 200-300 personnes, à aller un jour sur une coupe prévue pour empêcher ou en tout cas pour donner de la voix face aux forestiers, de dire ça c'est un bien commun. Donc aujourd'hui on voit qu'il y a quand même une diversité d'acteurs citoyens qui se mettent en place, qui se fédèrent autour de la défense de la forêt.
Oui, alors en fait, là, c'est en train d'émerger vraiment tout récemment. Et en fait, il y a des collectifs qui émergent. Et l'idée, c'est de se rassembler pour en fait pouvoir monter un dossier concret, tangible, pour le présenter à madame la préfet du département, pour modifier en fait la législation par arrêté préfectoral qui régit l'autorisation de coupe rase. Alors, on voudrait s'aligner sur ce qui est fait sur les autres départements voisins. En fait, je vais vous expliquer, je vais essayer d'être... Enfin, que ça ne soit pas trop compliqué, mais... dans l'Aude, chaque propriétaire privé a le droit de faire une coupe rase jusqu'à 4 hectares d'un seul tenant. Et s'il veut en faire plus, il doit demander une autorisation. Dans le département de l'Ariège, c'est 2 hectares. En Haute-Garonne, c'est 1 hectare. Et ce qu'on sait... Alors, ces coupes ont eu lieu à Fest l'année dernière. Et bon, Fest, c'est quand même connu pour avoir un petit réseau de militantisme potentiel. Mais ces coupes rases, elles ont commencé 3 ans auparavant dans la vallée du Rébinti. Et l'idée, c'est de pouvoir regrouper aussi les opinions. Parce qu'il y a quand même, depuis un certain temps, des plaintes qui sont rapportées par des gens du Pays de Sceaux et d'autres secteurs. Et on voudrait fédérer tout ça, en fait, pour plaider la cause d'un rabaissement de la surface de coupe, qu'elle soit au maximum à 2 hectares comme en Ariège, et qu'elle soit tout propriétaire confondu. Donc je rentre pas dans les détails, mais donc c'est quelque chose, c'est un dossier technique. Là, on va faire du repérage pour voir la surface des coupes qui ont été faites chez les privés, si elles sont légales ou pas. Si, en fait, on recherche aussi des infractions. Et c'est comme si, avec nos petits moyens, on remplaçait des services de l'État qui sont hyper diminués, hein, pour la DDTM. Y a presque pas d'agents pour contrôler tout ça. Hein. Et sans parler des infractions à la loi du travail, parce que les ouvriers employés... On a de fortes raisons de penser qu'ils ne sont pas régis sous les règles du travail et qu'il y a plein d'infractions, quoi.
Alors, on a de la chance aujourd'hui parce qu'on a un représentant des collectivités. Voilà, on a un agent, hein, vraiment, de bureau et de terrain. Alexandre Lézé, donc tu es chargé de mission en charte forestière à la communauté de communes des Pyrénées-Audoises, donc la communauté de communes autour de Quillan, une 60aine de communes, je crois. En quoi ça consiste cette charte forestière? Comment est-ce que vous, en tant que collectivité locale, vous êtes mobilisé justement pour prendre en main cet arsenal législatif dont parlait Hugo, est-ce que chez nous c'est quoi par exemple? C'est 4 hectares aussi, c'est-à-dire on est soumis à la législation du département. Est-ce que sur des territoires on peut essayer de remettre une législation supplémentaire, essayer de mettre un peu des freins à cette exploitation-là?
Alors, sur la Haute-Vallée de l'Aude, en fait, moi j'anime la charte forestière à la fois sur le territoire de la communauté de communes Pyrénées-Audoises, mais aussi du Limousin. Donc on est vraiment sur tout le territoire du sud du département. Et l'objectif de cette charte forestière, en fait, c'est de rassembler tous les acteurs de la forêt et la filière bois, que ce soit les propriétaires et les gestionnaires forestiers publics et privés, les élus, des associations naturalistes telles que la LPO, Eau de Claire, mais aussi des professionnels de la filière bois, comme les scieries, les charpentiers, dans l'idée de proposer un programme d'action pluriannuel qui permette de répondre aux enjeux et aux problématiques de la forêt, de la filière bois locale. Donc c'est vraiment une démarche locale portée par les collectivités locales et où on co-construit quelque chose, vraiment un programme d'action pour que chacun mette sa main à la pâte et chacun trouve des solutions aux différentes problématiques qui sont posées. Donc on va parler forcément mobilisation du bois et gestion forestière. On s'intéresse aussi à la valorisation du bois local par les entreprises locales. Et on va aussi s'intéresser bien sûr à toute la préservation des différents rôles de la forêt, que ce soit la conservation de la biodiversité, de la ressource en eau, l'accueil du public. Alors c'est vrai que cette démarche, elle est portée depuis 2006 sur les territoires par les collectivités. Et depuis quelques années, notamment depuis les coupes rases qui ont eu lieu sur le Rébinti, il y a eu beaucoup de demandes de la part de collectifs de citoyens ou d'élus sur la réalité de ces coupes rases et surtout qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, puisque derrière, sur ces coupes, on remarque beaucoup de conflits liés déjà au paysage, enfin, c'est un gros impact paysager. Alors ces coupes rases ne sont pas du tout majoritaires par rapport au volume de bois qu'on sort chaque année du territoire et qu'on transforme localement à l'extérieur, mais comme elles sont proches des accès, des villages, etc., ça se voit tout de suite. Après, Hugo en a parlé pour les sols, pour la biodiversité, c'est aussi un fort impact. Et du coup, ça entraîne aussi beaucoup de dégradation sur les chemins, des fois dans les villages, quand les camions ripent ou quoi. Et puis, derrière, il n'y a pas vraiment de remise en état des parcelles, des sentiers ou quoi. Donc, au niveau de la collectivité, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, mais avec les compétences de la collectivité, des professionnels et de l'administration qui sont sur le territoire. Donc, le but, là, c'est de regrouper tout le monde et de dire, au niveau de la charte forestière, avant de se dire comment faire pour interdire les coupes rases ou vraiment les réduire, qui paraît être un objectif vraiment sur le long terme, déjà, comment on peut prévenir les conflits. Donc, déjà, c'est beaucoup d'informations et de communication auprès des maires et des petits propriétaires de forestiers privés sur leur rôle, sur leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de l'exploitation du bois sur leur territoire. Donc c'est rappeler aux maires qu'ils ont pouvoir sur l'utilisation de la voirie communale, même la voirie forestière. Donc normalement, il y a une réglementation qui impose aux exploitants, aux propriétaires, à prévenir les élus, les mairies lors de coupes. Voilà une réglementation qui, Hugo, tu l'as rappelé, à partir d'un certain seuil de coupe, oblige à demander une autorisation auprès de, du coup, la direction départementale des territoires et de la mer, donc qui représente l'État sur le territoire. Donc l'idée, au niveau de la charte forestière, c'est déjà de rappeler les rôles et les devoirs de chacun. Et ensuite, une fois qu'on a bien rappelé les règles et qu'on a bien fait prendre conscience aux élus, qui est vraiment l'échelon local le plus important qui fédère tout le monde, les citoyens, les entreprises, et si le problème persiste, de voir comment on peut faire évoluer les choses. Donc c'est vraiment proposer aux acteurs les outils pour faire modifier les choses qu'ils le souhaitent. Donc par exemple, notamment sur les coupes rases, c'est vrai qu'il y a ce collectif qui s'est monté autour de plusieurs citoyens et élus, notamment autour de Fest et suite aux coupes de Fest et Saint-André. Donc là, c'est de dire, sur l'Aude, il y a ce seuil d'autorisation des coupes rases qui est à 4 hectares d'un seul tenant. L'idée, c'est déjà comment faire pour le baisser. Donc ça, c'est un pouvoir du préfet. Donc après, c'est de pouvoir dire au collectif, de dire, quels sont les leviers que vous pouvez mobiliser auprès du préfet, auprès de vos élus. Et surtout, c'est beaucoup, beaucoup d'informations auprès des petits propriétaires qui souvent, en vendant leur bois pour ce genre de coupes rases, ne savent pas dans quoi ils s'engagent derrière. Parce que quand on fait une coupe rase comme ça sur sa parcelle, normalement on s'engage à revenir à l'état boisé dans les 5 ans, etc., sous peine d'amende. Et voilà. Donc c'est vrai que la charte forestière, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de communication sur ce sujet des coupes rases. Et derrière, essayer de mobiliser certains leviers auprès des élus et de l'administration. Mais c'est sûr que ça prend du temps et c'est compliqué.
Et vous constatez des infractions, justement ? Vous avez des problématiques là vraiment en ce moment, des points de vigilance importants sur des secteurs en particulier ?
On va dire les points de vigilance, oui, parce qu'on a des remontées de la part des citoyens et des élus qui nous disent attention. Moi j'ai des coupes rases là, sur cet endroit, sur Fest et Saint-André, sur la vallée du Rimbati, sur le plateau de Sceaux. Mais souvent la question, tout le monde n'a pas forcément un GPS et le cadastre sous la main. C'est déjà, est-ce que c'est légal ? Est-ce que les entreprises et les propriétaires ont respecté la réglementation ? Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, entre guillemets, c'est mobiliser la DDTM, par rapport, donc la Direction départementale des territoires et de la mer, qui ont malheureusement l'administration, la forêt n'est pas forcément la priorité, qui ont peu d'agents, mais qui se déplacent quand même sur le terrain pour vérifier si on respecte les seuils. La direction de la réglementation des entreprises et des fraudes qui regarde s'il y a bien une déclaration de chantier, etc. Donc il va y avoir d'abord un premier filtre pour voir si la réglementation a été respectée. Et puis après, en fait, le deuxième filtre, ça va être d'aller voir les élus et de leur dire bon, bah voilà, cette fois-ci, vous n'avez pas été prévenus, vous avez été pris de court par ces exploitants qui sont venus, qui ont coupé en coupera sans prévenir personne. Maintenant, vous, pour empêcher ça la prochaine fois, qu'est-ce que vous pouvez faire avec des arrêtés municipaux sur la réglementation de la voirie, etc., sur demander au préfet de réduire le seuil des couperases, sans bien sûr, derrière, l'idée, c'est aussi de ne pas pénaliser les entreprises du territoire qui travaillent correctement avec les élus, les entreprises, etc. Sur le territoire, on a la chance encore d'avoir tous les maillons de la filière bois, depuis le gestionnaire forestier, en passant par le bûcheron, le scieur, le charpentier, le menuisier. On a la chance d'avoir une filière bois quasi complète sur la Haute-Vallée de l'Aude. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, comment faire en sorte que tout le monde respecte bien les règles, sans pénaliser, du coup, ceux qui travaillent déjà bien.
Et moi, du coup, j'ai une question sur... parce que là, on parle des forêts en gestion privée qui, du coup, sont... destiné à fournir du bois pour divers usages. Mais sur la question que soulevait Hugo là, au niveau de la réappropriation, enfin du rachat par exemple de parcelles pour une remise en état naturel à très très long terme, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont percé à ce niveau là au niveau des collectivités? Est-ce que c'est des options qui sont aussi sur la table? Pourquoi pas de racheter par les collectivités des morceaux de forêt? Voilà. Est-ce que c'est des choses auxquelles les élus ont pensé dans leur schéma de gestion de la forêt?
Oui, alors tu en parlais un petit peu au début. C'est vrai que le département, dans sa nature, n'est pas un très gros propriétaire forestier. Mais par contre, le département, le conseil départemental, a cette politique, en fait, éventuellement, de pouvoir racheter des forêts, mais qui sont, on va dire, classées, qui vont être classées en espace naturel sensible. Donc le département, lui, va vraiment acheter des forêts qui ont une vraie valeur patrimoniale en termes de biodiversité, de conservation des écosystèmes et tout ça. Au niveau des autres collectivités publiques, donc sur le territoire, on a les forêts communales qui appartiennent aux communes et les forêts domaniales. Alors la forêt coûte cher et c'est pas vraiment dans la politique, que ce soit de l'État ou des communes, d'investir pour acheter plus de forêts derrière. Ça fait aussi plus de surface à gérer, la gestion va coûter plus cher, même si c'est pour plus de naturalité ou quoi, c'est quand même un gros investissement. Après, on sait que par exemple la région Occitanie aussi, du coup, a décidé d'ouvrir un budget pour aider des privés ou des associations à pouvoir acquérir du foncier forestier pour la préservation de vieilles forêts, de forêts à haute valeur de naturalité, de biodiversité, etc. Donc, on va dire la politique au niveau de la forêt publique, surtout, de la forêt des collectivités, c'est pas forcément d'acheter de la forêt, mais c'est de se dire, on va faire par contre vraiment une gestion forestière multifonctionnelle, dans laquelle la forêt va vraiment répondre à tous les besoins en termes de production de bois, mais aussi d'espace d'accueil du public, des loisirs, etc., et de préservation de la biodiversité, de stock de carbone, etc. Donc on est plus là-dedans, sachant qu'on est quand même sur ce territoire avec des communes qui ont déjà une très très grosse surface forestière. Et puis voilà. Et puis dire aussi que c'est des fois assez compliqué d'acheter du foncier forestier, quoi. C'est pas, en tout cas sur ce territoire, c'est pas un marché très dynamique par rapport à d'autres territoires comme la Montagne Noire ou d'autres, quoi.
Alors moi, ça me fait penser, ce dont tu parlais, à ce concept de sylviculture douce. Voilà, tu parlais là d'une filière globale, un peu de l'exploitant forestier jusqu'au travail même du bois. Et puis on a une filière construction bois qui est quand même assez dynamique sur le territoire. Qu'est-ce que ça pourrait être, une sylviculture douce sur un territoire comme la Haute-Vallée de l'Aude?
Tu veux que je réponde ou tu réponds, Hugo, comme tu es quand même bien dans les réseaux, sylviculture douce
Je veux bien commencer, là, tu as fait le, qui m'a donné le point d'accroche. Ouais, c'est une histoire de réseau. C'est porté par le réseau pour les alternatives forestières. C'est un peu l'association emblématique pour des alternatives de sylviculture. Et donc, ils en sont arrivés à un point tellement poussé qu'ils ont un cahier des charges où on met sur papier l'ensemble des pratiques qu'on peut faire ou pas pour préserver la dynamique naturelle de la forêt et sa biodiversité. Et on recrée des emplois et on fait des investissements moindres en machinisme et en gigantisme. Alors ça apparaît dans la Drôme et dans le secteur... le secteur du RAF, du Réseau pour les Alternatives Forestières. Il se trouve que dans le territoire, on a aussi un représentant emblématique du Réseau pour les Alternatives Forestières qui s'appelle Gaëtan Dubus. Alors la sylviculture douce, en gros, c'est minimiser l'impact. Vraiment des petits outillages pour débusquer les bois et les mettre sur les pistes, les charger. Et c'est aussi un modèle économique. Et moi, je pense qu'une des portes d'entrée, c'est de revoir vraiment complètement le modèle économique de la sylviculture, parce que quand on parle d'industrialisation, ça veut dire qu'on est mis en compétition du bois qui est difficile d'accès, qui coûte cher à sortir ici, avec du bois qui est très facile d'accès, comme je disais, en Scandinavie ou ailleurs. Et on peut pas être compétitif, et je pense pas que ce soit l'idée là où on en est. Il faudrait mieux pouvoir payer et mieux former les bûcherons, hein, les forestiers qui ont vraiment aussi, là il faut le dire aussi, une profession qui est hyper dure, hein, qui est hyper mis de côté pour pas grand chose en salaire et voilà. Donc la sylviculture douce, c'est un modèle d'avenir, mais c'est un modèle économique à trouver aussi. Et ça, ça s'est mis en place, comme je disais, dans la Drôme, aussi à travers des réseaux qui s'appellent les AMAP Bois-Bûche. Ça veut dire qu'en fait, on fait des réseaux de citoyens qui sont prêts à mettre le prix, payer un supplément pour du bois écologique en fait. Donc il y a un côté militant qui n'est pas forcément facilement généralisable partout. Et je pensais aussi à quelque chose, c'est les coûts qu'on ne prend jamais en compte pour les collectivités quand on fait de la sylviculture industrielle. Ça veut dire qu'on va dénaturer des milieux, ça va avoir un impact sur les voiries, sur les dessertes forestières, et c'est un coût pour la collectivité qui est énorme. Et c'est des coûts cachés, ça, on ne les voit jamais. Et c'est pour ça qu'il y a une réflexion à reprendre complètement, à ce niveau-là, à mon avis. Voilà, et ça pourrait porter des modèles de sylviculture douce, si on revoit un peu la copie de comment on soutient des nouvelles façons de travailler en forêt, quoi.
Et si je peux rajouter, je pense que ces démarches-là, et même d'autres démarches d'améliorer la gestion forestière, de la dynamiser, ça marche si on a vraiment des, comme pour l'agriculture, on commence à avoir des consommateurs au niveau de la filière bois, c'est-à-dire vraiment se renseigner sur la provenance des produits bois qu'on achète, déjà aussi utiliser le produit bois, c'est-à-dire je veux faire construire une maison, je veux rénover, me renseigner sur moi les produits bois que j'ai sur le territoire, les artisans de mon territoire, et je ne vais pas dire ça part du consommateur final, parce que ça part de tout le monde, chacun doit jouer son rôle, mais du coup le consommateur final aussi doit jouer son rôle de se renseigner de d'où vient le bois, comment il a été cultivé, etc. Et c'est aussi avec cette réflexion-là que derrière ça fait bouger les choses en termes de gestion et de mobilisation du bois, et que la charte forestière notamment prend tout son sens, quoi.
Super, merci messieurs. Comment est-ce qu'on peut rejoindre cette réflexion-là en tant que citoyen ? Là, je pense aux auditeurs de Balade. Comment est-ce qu'on peut s'associer à ces réflexions-là ? Comment est-ce qu'on peut rejoindre ce mouvement ? Je ne sais pas, une adresse de site internet, un mail, un numéro de téléphone à appeler si on veut s'informer sur la sylviculture douce, ou si on veut vraiment aussi s'engager au niveau local contre ces coupes rases. Hugo, peut-être un contact pour Forêt Préservée ?
Oui, un contact, oui. Alors, c'est déjà un site internet, c'est forêt au pluriel préservé au pluriel.com. Et pour l'adresse mail, j'ai un trou, je ne suis pas sûr. Je dois l'avoir.
On la mettra sur la page Facebook de l'émission, on pourra mettre le contact.
Je pourrais dire une bêtise et je préfère pas le faire.
Et peut-être, Alexandre, il y a des choses ouvertes au public dans le travail de la charte forestière. Il y a des réunions aussi auxquelles on peut assister.
Bah, éventuellement, quand on organise des réunions ouvertes aux habitants du territoire, on essaie de communiquer le plus largement. Après, n'importe qui a des questions, on mettra aussi mes coordonnées sur le site internet ou la page Facebook, mais ne pas hésiter à en parler à son maire, qui éventuellement pourra me contacter, ou alors d'aller voir directement la communauté de communes où je travaille, il n'y a pas de souci.
Super, merci beaucoup Alexandre. Nico ?
Ouais, bah, moi je vais y aller aussi de mon petit conseil. On a parlé de Francis Allais deux fois là, dans l'émission. C'est un botaniste, un naturaliste français qui est maintenant qui a un certain âge, mais qui a monté une association qui s'appelle Association pour la forêt primaire. Et donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais toi Hugo, il cherche en fait à reconstituer un espace de forêt primaire. Donc une initiative de long terme qui serait en fait à cheval sur la France et l'Allemagne et recréer une forêt primaire via des dons et peut-être le soutien de collectivités ou de l'État, on ne sait pas. En tout cas, ça serait intéressant de regarder son site si vous avez l'occasion. Association pour la forêt primaire Francis Allais, avec un H.
Oui, Hugo, un dernier point.
Ouais, quand rapide. Tu parles de dons, là, ça me fait penser. On a un copain qui nous a donné une fée don d'une forêt en Haute-Vallée de l'Aude, donc qui est rentrée en évolution naturelle libre. Donc, si vous avez des forêts que vous voulez laisser vieillir et mûrir, donnez-les-nous pour qu'elles se démerdent toutes seules.
Et donc, c'est contact@forêtpréservée.com, forêt préservée au pluriel, hein, voilà, avec des S, des EES. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Comptoir du Monde. Et d'ici là, portez-vous bien.